RFI, grand reportage.
Marie Casadebé.
Grand reportage nous emmène aujourd'hui dans le Poule, au Congo-Brazzaville. Le 23 décembre dernier, il y a un peu plus de 6 mois, les autorités annonçaient la signature d'un cessez-le-feu avec la rébellion menée par le pasteur Ntoumi. La fin d'une guerre de plus d'un an et demi, aux origines encore floues, une guerre née au lendemain de la présidentielle de 2016. Pendant ce conflit, plusieurs districts du département du Poule ont vécu littéralement coupés du monde, inaccessibles aux marchandises, aux humanitaires et encore plus aux journalistes. Fin juin, RFI a pu se rendre dans ces zones où les déplacés commencent à rentrer. Ils découvrent des villages rasés, pillés, brûlés, des champs abandonnés. Alors quel avenir pour ces populations et pour les ex-combattants qui attendent désormais le désarmement? Le Poule au Congo-Brazzaville, un cessez-le-feu. Et maintenant, un reportage de Florence Maurice.
Kinkaya, un village détruit au bord de la route à 150 km de Brazzaville.
Ça aussi c'est brûlé, c'est cassé, c'est cassé. Pourquoi il y a qui
Charlotte Kété, la cinquantaine, est rentrée il y a 2 semaines. Elle se désole devant les murs calcinés de ce qui était sa maison.
Les militaires ont tout brûlé, le lit, la maison, les assiettes. Regardez, même les tôles, tout est noirci par la fumée. Regardez là, vous voyez, à cause de la chaleur, la maison menace de s'effondrer.
Kinkaya, 200 habitants autrefois, à peine 10 aujourd'hui, tous ont fui le même jour en octobre 2017. Daniel Lévo, le mari de Charlotte, raconte.
Quand les militaires sont arrivés, ils nous ont d'abord rassemblés au milieu du village, tous les habitants. Et puis quelques soldats sont partis incendier les maisons. Ils avaient un bidon de 25 litres d'essence, ils ont tout brûlé. Les habits, les maisons, et tout cela sous les yeux de la population. Ils nous disaient que quelques jours plus tôt, il y avait eu un accrochage pas très loin avec des rebelles. Les militaires nous ont accusés d'être leurs complices, tout le monde, même les femmes et les enfants. Mais nous, nous n'avions rien à voir avec toute cette histoire.
Il pousse une porte brinque-ballante faite de tôles brûlées. À l'intérieur, un matelas de mousse, quelques gamelles. Une maison abandonnée où Daniel et les siens se sont installés au retour, faute de mieux.
C'est la maison du chef de village. Même ici, la porte a été brûlée. J'ai dû la réparer. Je reste là, en attendant de reconstruire une case avec des lianes coupées. Il faut que le gouvernement nous vienne en aide. Nous sommes à bout de force. Nous n'avons plus rien.
À l'extérieur, une femme arrache quelques pousses d'arachide. C'est tout ce qu'il reste à ces familles qui vivaient autrefois de leur culture, comme 80% des habitants ici. Le Poule était avant la guerre le principal foyer de production du pays.
En fuyant, nous avons dû abandonner nos champs. Tout a été perdu. Les tubercules de manioc qui restent sont inutilisables. Certains champs ont même été pillés. En fait, nous sommes devenus comme des étrangers dans notre propre village.
Le drame de cette famille et celui de nombreux habitants du Poule pris en étau dans un étrange conflit où la distinction entre combattants et civils a plus d'une fois semblé abolie. Le chef d'un autre village anonyme témoigne lui aussi de cette confusion. Il y a un an, dit-il, son village était attaqué par un groupe de rebelles.
C'était vraiment à une heure tardive. J'étais au foyer avec les enfants. On est juste venu me dire de se lever et de prendre une direction inconnue. Je me suis exprimé en disant, comme je ne porte qu'un t-shirt, il fait nuit. Ne serait-il pas nécessaire que je puisse prendre au moins un manteau pour me couvrir? Et quand je suis rentré dans la maison, j'ai pris l'âme, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai pris la fuite. Et derrière moi, la famille a été vraiment tabassée, menacée à mort. Et ils avaient ramassé tout ce qui était dans la maison, les habits, la vaisselle, voire même les petits moyens qu'on avait.
Motif, selon lui, une supposée complicité avec le pouvoir et donc les militaires.
Parce que je suis un chef du village, comme quoi nous sommes du parti au pouvoir, comme quoi nous sommes des pessétistes. C'était le motif, c'est tout.
Quelques semaines plus tard, son village a cette fois été visité par les militaires.
Les ninjas, ils nous accusent que c'est nous qui recevons les militaires. Et quand les militaires arrivent, ils nous accusent que c'est nous qui recevons les ninjas.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, les militaires?
Ils nous demandaient de dénoncer les ninjas. Ils ne pouvaient dénoncer les ninjas que celui qui connaissait un tel ou X. Mais comme moi, je ne connaissais personne, et je n'ai jamais dénoncé aussi personne jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes pris entre deux feux dans notre pays.
Au marché de Kindamba, la vie reprend, mais timidement. À peine 8 heures ce matin-là, Raja, vendeuse, son bébé de 3 mois dans le dos, s'apprête déjà à remballer faute de clients et de marchandises.
C'était la guerre ici, les gens n'ont plus d'argent et les produits manquent encore. C'était devenu tellement dangereux d'aller cultiver dans les champs. On était menacés, les gens n'ont pas planté depuis 2 ans. Aujourd'hui, les camions de marchandises recommencent à venir, mais ça ne fait pas longtemps.
Ici et dans les districts alentours, les habitants ont été pris dans un double piège. D'un côté, les barrages des ex-combattants, de l'autre, les interdictions de circuler imposées par les militaires. Pendant presque 2 ans, plus aucun véhicule de marchandises ne se risquait à faire route jusqu'ici. Manger était devenu une lutte quotidienne.
On a tellement souffert, c'était devenu impossible de trouver à manger. Même avoir du poisson salé, c'était très difficile. Il n'y avait plus d'huile, plus de sel. La plupart des gens étaient partis en brousse et où ils se débrouillaient avec ce qu'il y avait là-bas, parfois des feuilles, parfois un peu de manioc. Nous avons souffert.
D'autres s'étaient réfugiés au centre-ville de Kindamba et témoignent aujourd'hui d'un climat de psychose. Peur de se rendre au champ par crainte d'être attaqué, peur de sortir le soir, briser le couvre-feu et risquer d'être confondu avec un combattant, une véritable prison à ciel ouvert.
Pas d'entrée, pas de sortie. Nous étions enfermés ici. Tu ne peux pas entendre le mouvement des camions, tu ne peux pas entendre le mouvement des vélos, même les radios. Tu peux entendre le mouvement, c'est le coq et les bêtes.
Si tu es arrivé ici à Kindamba, on ne peut pas encore te menacer parce qu'il y a l'autorité qui est là. Il y avait le sous-préfet et puis il y avait le maire. Mais en cours de route, si on t'attrape, c'est foutu. Que ce soit les militaires ou ex-combattants, on t'attrape en cours de route, on t'abat. Donc on avait cette crainte-là, vaut mieux de mourir de faim. Ce n'est que les militaires qui avaient leur avion, qui leur fournit leurs produits alimentaires. Nous, en tant que population, on souffrait.
Le maire de Kindamba, Bienvenu Balossa, resté sur place pendant la guerre, se souvient ému du 21 mars 2018, lorsque le premier convoi est venu briser cet isolement.
C'était dans une ambiance de carnaval que ces véhicules ont été accueillis ici. Et il y a des populations qui ont passé la nuit dehors. Des jeunes qui se sont mis dans un état de débriété, tellement qu'ils étaient contents.
Parce qu'avant ça, vous vous sentiez comment ?
Mais on était dans une crise humanitaire. Vous imaginez que si une situation grave de maladie, par exemple, tu piques une crise comme ça, à l'époque, heureusement que Dieu nous a épargnés. Je pense que aujourd'hui, c'est du passé.
Du passé, peut-être, mais il faudra encore du temps pour résorber les conséquences de la guerre. Ce jour-là, une équipe du PAM, le Programme Alimentaire Mondial, distribue du riz et des haricots. Ils ont mis 8 mois avant d'obtenir le feu vert de l'armée. À leur arrivée, ils ont découvert une situation alarmante, un habitant témoigne.
Il y avait eu des gens, surtout les petits enfants, il y avait une période de maladie qui était arrivée ici, surtout les malnutritions. La peau là, ça change, une autre couleur. Au moment où il souffrait, s'il n'a pas de choix, il va mourir.
Assise par terre à côté de lui, une femme attend un sac de riz. Pendant la guerre, 4 enfants, dit-elle, sont morts dans sa famille.
Oui, 4 enfants qui sont morts pendant la guerre, oui. Mes petits-fils, c'est pas mon enfant propre, mais c'est mes petits-fils.
Dans l'urgence, le PAM n'a pas mené d'évaluation chiffrée de la malnutrition. Il fallait tout de suite intervenir. Mais un phénomène inquiète Josias Massamouna, responsable du PAM dans le département. L'apparition ici de cas de kwashiorkor, une forme de malnutrition inhabituelle pour le Congo.
C'est inquiétant parce que le kwashiorkor, qui se manifeste par un retard de croissance et d'une fonte musculaire importante, à long terme aura d'importants impacts sur le quotient intellectuel des enfants. C'est une forme de malnutrition très pernicieuse parce que c'est à long terme qu'elle a des conséquences sur les enfants. Ces enfants ne vont pas répondre, le connectif ne répondra pas de même manière qu'un enfant qui a suivi une croissance normale.
Les humanitaires estiment qu'une année d'assistance sera nécessaire pour écarter le spectre de la malnutrition. Mais combien de temps faudra-t-il pour effacer le traumatisme des populations ? Car ce jour-là, au cours de la distribution, une autre réalité cachée de ce conflit surgit dans la conversation.
Il y a eu des viols. Même ici à Kindamba, il y a eu des viols. C'est la pagaille.
Il y a eu beaucoup de femmes violées ?
On ne sait pas combien, mais il y en a beaucoup. Oui, je connais même une femme qui en est morte.
Des viols, selon cette femme, commis par les deux parties, militaires et ex-combattants. Elle refuse d'en dire davantage, mais un homme qui écoute la conversation nous demande de nous mettre à l'écart. Il veut nous raconter ce jour d'avril 2017 où des hommes en armes sont venus prendre de force des femmes dans son village.
C'est les femmes, nos maris qu'ils cherchaient, ils l'ont pris. On vient vous trouver brutalement, c'est l'amour qu'on sait.
Ils ont pris des femmes comme ça sous vos yeux?
Oui, oui, oui. Sans programme, comme nous parlons, tu es la femme. Avec l'arme, qu'est-ce que tu peux faire? Je peux rien dire.
Doucement là, doucement.
Derrière lui, nous dit-il, plusieurs de ces femmes portent un enfant issu de ces relations forcées dans leurs bras. Non loin de là, une autre femme donne le sein à son fils de 2 mois, un enfant du viol qu'elle a subi avec ses 3 sœurs en forêt alors qu'elles allaient cultiver leur champ.
Ils étaient 6 et ils avaient des armes. Ils nous ont encerclés et menacés avec leurs armes. Nous n'avions pas le choix. Ils nous ont d'abord déshabillés, puis ils nous ont violés.
Par peur, les 3 sœurs ne sont plus jamais retournées dans leur champ.
Depuis qu'on a abandonné nos champs, nous n'avons plus d'argent. Même pour nettoyer les couches de mon fils, je n'ai rien. Je suis obligée d'échanger le riz et les haricots qu'on nous distribue ici pour avoir ne serait-ce qu'un petit bout de savon.
C'était il y a presque 1 an. Depuis, ni cette femme, ni sa grande sœur violée le même jour n'ont reçu le moindre soin.
On souffre. J'ai mal dans le bas-ventre et dans mes parties génitales. Je sens des boules parfois et des démangeaisons. Ça me fait mal quand je vais aux toilettes. Mais comment aller voir un médecin alors que je n'ai pas d'argent?
L'hôpital de Kindamba est l'un des rares dans ce district à ne pas avoir été pillé pendant le conflit. Mais après 2 années de guerre, le personnel qualifié manque, le matériel aussi. Gaston Gambounou, surveillant général, se sent démuni.
Parce que pour ce genre de problème, il faudrait que le côté psychologique aussi soit traité. Et nous n'avons pas un psychologue.
Vous recevez beaucoup de gens qui sont traumatisés?
Si, ce n'est pas seulement les violences sexuelles. Il y a beaucoup de traumatismes. Mais il y a des gens qui ont subi des sinistres, à qui on a brûlé les maisons, qui ont eu à faire des accidents vasculo-cérébrales par rapport à ce traumatisme. Nous, nous traitons le côté médical. Et voudrait que l'autre côté là soit traité également.
À ces traumatismes s'ajoute l'incertitude sur la solidité du processus de paix. Suite au cessez-le-feu en décembre, une commission s'est constituée à Brazzaville. Elle rassemble des représentants du pouvoir et du pasteur Ntoumi. Aujourd'hui, Séraphin Ondélé, son président, également directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, dresse un premier bilan positif.
Nous avons sensibilisé les populations à la nécessité d'un retour à la paix dans le département du Pôle. La commission et moi-même, nous avons sillonné tout le Pôle. Les populations ont totalement adhéré au message de paix. Les ex-combattants du révérend pasteur Ntoumi nous ont accompagnés dans cette démarche. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que les résultats sont satisfaisants et tout le monde est content. Maintenant, on attend l'étape décisive, celle du ramassage des armes. Là-dessus, nous nous attelons à créer les conditions justement pour un ramassage effectif des armes. Ça ne saurait tarder.
Pourquoi est-ce que ce ramassage des armes n'a pas encore pu avoir lieu jusqu'à présent?
Il y a quelques détails techniques qu'il faut accomplir avant le ramassage, mais madame, d'ici là, ça va s'enclencher, soyez rassurée.
Un discours rassurant, mais qui ne convainc pas tous les observateurs, car s'il est vrai qu'en apparence le calme est revenu, le désarmement n'a pas débuté. Ce jour-là, ils sont 10 d'ex-combattants rassemblés sous un arbre. L'un d'entre eux nous montre une photo sur son téléphone. On le voit poser fièrement un fusil d'assaut flambant neuf dans les mains.
L'arme-là est encore avec moi parce qu'on ne nous a pas encore démobilisés, c'est ça.
Colonel Lascoman, son surnom de combat, a quitté sa cachette en forêt il y a moins de 3 mois, bien décidé à faire la paix et remettre cette arme. Mais comme ses camarades, il pose un préalable, la levée du mandat d'arrêt qui pèse contre leur chef, le pasteur Ntoumi. Plus vraiment traqué, mais toujours pas libre de circuler, il se cache encore dans le pool et à mesure que les mois passent, le scepticisme s'installe.
Ce qui nous inquiète, c'est que le président de la République n'est pas clair. Parce que depuis qu'il avait signé l'accord, ça fait déjà 7 mois de cela, on n'a pas de solution. Donc, il parle de la paix, mais selon nous, la paix n'est pas une véritable paix.
Il y aurait environ 10 000 ex-combattants et 7 500 armes dans le pool selon une estimation des Nations Unies. Armes de chasse ou armes de guerre récupérées pendant les affrontements.
Vous aviez récupéré comment?
Récupérer les armes, mais en tuant les militaires.
on les tient et puis on récupère les matériels, voilà. On va, on tue, on prend les boîtes de sardines, c'est-à-dire les boîtes de conserve et les armes, les munitions. Mais on ne tue pas la population. Notre cible, c'était des militaires.
Comment en est-on arrivé là? Sur l'origine de la guerre, les versions divergent encore. Accusés par les autorités d'avoir pris d'assaut Brazzaville pour renverser le pouvoir, les ex-combattants, eux, disent avoir été victimes d'une traque systématique orchestrée par les autorités et obligés de répliquer.
Nous avons imposé la guerre, raison pour laquelle nous avons fait la guerre avec eux. Ils avaient mis des barricades partout. On n'entrait plus à Brazzaville. Les armes, ils tiraient partout, les hélicoptères tiraient partout, partout, même à Soumana. Quand ça bombardait à Soumana, moi j'étais sur place, à quelques mètres seulement de Soumana. On n'a plus de maisons, les maisons avaient été cassées. Même là où je louais à Brazzaville, ils avaient tout pris à Brazzaville aussi.
Un peu en retrait, cet ancien rebelle nous montre l'espace qu'il partage la nuit avec d'autres ex-combattants.
Mais oui, par exemple ici, bon, mais c'est un hangar. C'est un hangar, il y avait une personne qui vendait des beignets. Mais actuellement, comme elle n'exerce plus son commerce, donc raison pour laquelle nous dormons comme ça.
Avant la guerre, beaucoup habitaient Brazzaville, qu'ils ont fui au début du conflit. Désormais loin de chez eux, les plus chanceux réparent quelques motos, mais la plupart n'ont aucune ressource et peu de perspectives.
Oh mon Dieu, catastrophe. Les organismes humanitaires qui viennent là, ils viennent seulement pour les populations, ils viennent pour les ex-combattants. Donc nous souffrons tel que nous sommes là. Ils nous disent que vous attendez le DDR. Le DDR, on ne sait pas jusqu'à quand. Donc on est là à peine.
À Vinza, dans le district voisin, fausse manœuvre, ex-combattant lui aussi, loge désormais dans une ancienne école dévastée, éventrée, bombardée au début du conflit.
Oui, au Birané à côté là. Il est à côté à Nègre.
Regardez, l'obus est entré par le mur, en face, et a atterri ici. Il y avait des réserves de nourriture pour la cantine scolaire. Même le riz pour les enfants a été perdu.
Côté les coups, ici ça détourne à l'os.
Vous, pourquoi est-ce que vous êtes installé dans cette école?
Ben, parce que par rapport à Nathan, par rapport que
je ne peux pas aller dans le centre-ville tant que le processus de paix n'aura pas complètement abouti et que le pasteur ne sera pas libre. Ils sont moins nombreux qu'avant, mais il y a encore beaucoup de militaires. J'ai peur pour ma sécurité. Qui sait que je ne serai pas victime de représailles?
À notre approche, les enfants qui entourent cet ex-combattant s'enfuient, la peur des militaires, disent-ils. Précarité, méfiance, impatience, un cocktail qui inquiète Aziz Bienvenu Minkala, l'un de ceux que le pasteur Ntoumi a mandaté à Brazzaville pour négocier la mise en œuvre du cessez-le-feu.
Leur politique de pourrissement risque d'engendrer de graves problèmes de mécontentement effectivement au niveau de la base, que les gens risquent de cibler encore avec des armes. Les gens vont mal interpréter ça, risquent de se révolter.
Midi, lors de la prière.
C'est l'heure de la messe à Mpiémé. Un drapeau violet marque l'entrée du village, la couleur du pasteur Ntoumi. Au sol, des ornements sacrés dessinés à la pierre et la craie. À défaut de pouvoir prêcher auprès de ses fidèles, le pasteur a installé ici une vingtaine de ses proches. Ils organisent des cultes et servent de relais dans l'application du cessez-le-feu. Fin juin, la libération d'environ 80 prisonniers a été perçue comme un signe positif. Mais ici, personne n'a oublié la promesse non tenue d'une réinsertion après la précédente guerre de 98. Et alors que cette fois, l'économie du Congo est asphyxiée sous le poids de sa dette, beaucoup redoutent un statu quo.
Ils parlent toujours de la réinsertion, c'est peut-être une motivation à la population. Mais depuis 98, il n'y a pas eu une réinsertion. Est-ce que la population du pôle va encore arriver à se rétablir, je ne sais pas. On n'a plus d'habitation, on n'a plus d'élevage, même les arbres ont été coupés. Et nous sommes vraiment dans le deuil. Quand prendra fin ce deuil-là, on ne sait pas.
D'autres en appellent à une commission vérité et réconciliation pour faire la lumière sur les racines profondes de ces conflits qui meurtrissent le pool depuis plus de 20 ans et dont les civils restent les premières victimes.
Alléluia.
Le pool, un cessez-le-feu et maintenant, un reportage de Florence Maurice réalisé par Eva Moschinski.
Merci, oh mon Dieu, oh merci, merci Jésus-Christ, oh merci, merci. Esprit Saint, gloire.